Bon, je vous propose de commencer très tranquillement. Comme on est en comité restreint, n'hésitez pas à m'interrompre ou à faire de cet échange un véritable échange et non pas une conférence. Bon, je m'appelle en fait Adrien Rivière, j'ai 27 ans et j'ai écrit donc ce livre qui va sortir le 11 avril prochain aux éditions Marabout et qui s'intitule « Prendre la parole pour marquer les esprits ». Et en fait, je suis parti de plusieurs points qui me semblent très importants et qui me semblent surtout différents par rapport à ce qui existe déjà sur ce sujet. Le premier point, c'est que souvent, quand on dit prise de parole en public, il se passe cette réaction, c'est-à-dire une espèce de réaction de peur et de stress, comme dans Psycho, vous savez, ce film de Hitchcock. Et les gens, en fait, n'aiment pas prendre la parole en public, ou très peu prennent du plaisir à prendre la parole en public. Donc la première des réactions, souvent, c'est du stress, c'est une peur, c'est l'oubli, c'est qu'est-ce que je vais dire si je ne connais plus mon texte, etc. Et la plupart des ouvrages, en fait, commencent par cette peur, et commencent très longuement à essayer d'expliquer pourquoi on a peur, comment il faut surmonter cette peur, etc. Moi, je ne suis pas parti de ce postulat-là. On va voir après pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième des réactions qui existe également, c'est celle-ci, c'est-à-dire la fuite. Donc après la peur, vous avez ceux qui décident de fuir, c'est-à-dire qui disent « c'est pas pour moi, je ne vais absolument pas faire ça, je ne vais pas monter sur scène ». Et il y en a plein qui voudraient partager une idée avec toutes leurs convictions, leurs opinions, mais qui n'y arrivent pas. Et donc qui préfèrent soit se cacher, soit fuir. Après, il y a un certain nombre de personnes qui partagent leurs opinions, mais qui produisent un effet qui est celui-ci, qui est plutôt un effet d'ennui, parce qu'ils n'arrivent pas à captiver, ils n'arrivent pas à marquer les esprits. Donc moi, une des grandes lignes directrices de mon ouvrage, c'est comment on fait non seulement pour prendre la parole, mais également pour marquer les esprits, c'est-à-dire tout simplement dire quelque chose qui soit retenu, compris, mémorisé, par une audience. Et c'est quand même deux choses différentes, parce que prendre la parole, c'est une chose, mais prendre la parole pour marquer les esprits, c'est non seulement une logique différente, mais également donc une méthode que je vais vous présenter rapidement différente. Donc moi, mon objectif, c'est plutôt ça, c'est-à-dire arriver à prendre la parole en s'amusant, en souriant, en prenant du plaisir. Et c'est peut-être simple à dire, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on voit dans la majorité des ouvrages qui existent aujourd'hui. Et donc moi, c'est une grande ligne directrice que j'ai prise dans mon livre. C'est un livre qui, véritablement, on prend du plaisir à étudier la prise de parole en public, à se jeter à l'eau et tout simplement à partager ses idées, ses convictions, ses opinions. Et donc, la première des règles, elle est toute simple, vous la connaissez tous, dans tous les domaines. Que vous soyez musicien, dans vos vies professionnelles, c'est qu'il faut se préparer. Et plus vous vous préparez, plus vous réussirez le jour J. Et la prise de parole en public, on a l'impression que ça ne s'astreint pas à cette règle, pour la simple et bonne raison que vous êtes capable de me parler, je suis capable de vous parler, la parole, tout le monde l'a. Et donc on se dit que prendre la parole en public, il y a quelque chose d'extrêmement facile, puisqu'on le manie tous les jours. Mais en réalité, là, je suis en train de vous parler dans une conférence, je pourrais vous parler au travail dans une réunion, je pourrais essayer de vous raconter une histoire à table le dimanche midi. Et c'est en fait ces deux exercices différents. C'est-à-dire qu'il y a un exercice qui est véritablement la conversation, le bavardage, et puis il y a le moment où vous prenez la parole et vous souhaitez marquer les esprits. C'est-à-dire, c'est une étape plus loin. Et donc c'est ce que j'appelle la loi de Wilson. Donc Wilson, c'est le 28e président des États-Unis, donc on est au début du 20e siècle. Et lorsqu'un journaliste lui pose une question sur comment fait-il pour préparer ses discours, et à un moment donné, Wilson répond « Vous savez, si vous me demandez de parler une heure, je peux vous le faire immédiatement, je n'ai pas besoin de préparer. En revanche, si vous me demandez de parler 10 minutes, je vais avoir besoin de 2 semaines de préparation. Si vous me demandez de parler 3 minutes, je vais avoir besoin de 1 mois. » Autrement dit, la loi de Wilson, c'est plus vous avez de temps pour parler, par exemple le bavardage, moins vous avez besoin de préparer. Et donc plus votre intervention doit être ramassée, aller à l'essentiel, impactée, plus vous avez un temps de préparation qui est long. Parce qu'en réalité, les messages qui sont courts, que vous retenez, pensez au moral des fables de La Fontaine, ça prend énormément de temps à trouver le juste mot, à trouver l'organisation des mots, à trouver l'exemple qui va véritablement vous parler. Et c'est ça qui est difficile. C'est dans cette simplicité, par exemple, de la morale, de cette leçon de vie en 10 mots, que réside toute la difficulté. Et moi, une partie de mon métier aujourd'hui, c'est de travailler sur ce type d'interventions qui sont extrêmement courtes. Moi, je travaille avec des dirigeants, notamment dans mon entreprise, donc je forme des dirigeants à la prise de parole en public sur des formats très courts, 8 minutes, 10 minutes. Ces gens-là, ils dirigent des milliers de personnes, ils ont des milliers de sujets à travers le monde, des entités partout, des processus partout. C'est extrêmement complexe. Et pourtant, ils doivent prendre la parole, c'est 8 minutes. Comment fait-on ? Et ça, ça prend du temps. Et ça, c'est difficile. Et on met en place un certain nombre de méthodes. Donc la première chose qui est importante ici, c'est vraiment cette loi de Wilson, qui est assez marrante à retenir et qui peut paraître en fait assez contre-intuitive, mais qui s'explique assez bien. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu récemment le film « Les heures sombres », qui est une biographie en fait de Churchill. Et Churchill en fait est connu pour être l'un des dirigeants, l'un des plus grands orateurs de l'histoire d'une part, mais surtout l'un des orateurs qui passait le plus de temps à préparer ses discours. Passer des heures, la veille, au soir, la nuit, à retravailler les notes de ses conseillers. Donc il raturait jusqu'au dernier moment pour avoir le bon mot. Et on sait par exemple que Martin Luther King faisait la même chose. Donc il avait des gens qui étaient prédisposés à l'écriture et à la répétition de ses discours, mais également il raturait, il revenait dessus, il les répétait, il testait des choses, il y revenait. Donc là, c'est la deuxième règle, c'est il faut prendre le temps de préparer ses interventions si vous voulez marquer les esprits, encore une fois. Et puis il faut répéter, le faire encore et encore. Il n'y a pas de secret ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose qui est parfaitement réalisé et qui marque les esprits, c'est qu'il a été fait plusieurs fois. Et en fait, souvent les gens se disent « Oui, mais Martin Luther King, le 28 août 1963, quand il prononce « I have a dream » à Washington », c'est une improvisation, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous, sur la vidéo, vous regardez, la vidéo dure 18 minutes, il va lire son texte pendant 10 minutes, puis il va quitter son texte, et les 8 dernières minutes, c'est la partie « I have a dream ». Et en fait, il ne regarde plus ses notes. Donc une légende, ou une partie de l'histoire, dira que c'est une improvisation, qu'il a totalement improvisé cette partie-là. En fait, on sait maintenant qu'il testait, depuis très longtemps, et dans de très nombreux discours, ce thème du « I have a dream ». Donc en fait, à ce moment-là, qui est filmé, qui est devant des dizaines de milliers de personnes, va rester dans l'histoire, mais en réalité, il était revenu encore et encore à ce message qui, il l'avait senti, marquer l'audience, et donc ça montre bien que c'est rarement de l'improvisation, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire que vous avez un spectre qui est composé de trois grandes disciplines, que sont le théâtre, la prise de parole en public et l'improvisation. Très simplement, le théâtre, vous savez ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. L'improvisation, vous ne savez pas ce que vous allez dire et vous ne savez pas comment vous allez le dire. La prise de parole au public, on est juste au milieu. C'est-à-dire que vous savez ce que vous allez dire, mais vous ne savez pas comment vous allez le dire. Et il s'avère que Martin Luther King savait exactement ce qu'il allait dire, mais c'est le comment, la manière, le ton qu'il a utilisé, les silences, eh bien ça, c'était le jour J. C'était comme ça qu'il l'a ressenti. Et c'est ça que, dans mon livre, j'essaye de montrer également, c'est de se préparer à avoir ce moment où vous êtes capable de délivrer le message qui vous tient le plus à cœur. Et c'est la même chose qui se passe, non pas seulement avec Churchill ou Martin Luther King, mais avec votre grand-père qui vous raconte des histoires le dimanche, qui vous captive et qui vous raconte 20 fois la même histoire tous les dimanches, mais que vous continuez d'écouter, ou vos parents, ou peut-être vos frères et sœurs. Enfin, il y a des gens certainement dans vos familles que vous connaissez qui arrivent à captiver, qui arrivent à capter l'attention des amis. Et en fait, ils utilisent la même chose, c'est-à-dire qu'ils savent raconter une histoire. Et en fait, ils utilisent des mécanismes qu'on peut retrouver, et ils l'ont testé à différents endroits, à différents moments, avec différents amis. Et donc, c'est ça qui fait aussi leur force. Et il y a un élément, en fait, qu'ils font tous, c'est un message unique. Donc, cette image, elle représente une bouteille à la mer, et imaginez qu'à chaque fois que vous prenez la parole, en fait, il faut toujours se poser la question de savoir si je ne vais glisser qu'un seul message dans une bouteille, lequel serait-il ? Un seul message. Encore une fois, moi, dans mon métier de tous les jours, avec des dirigeants, ils me disent « mais j'ai plein de messages à faire passer. J'ai envie de féliciter mes employés, j'ai envie de leur dire que les résultats de l'année dernière étaient excellents, j'ai envie de leur dire qu'il y a de nombreux défis qui nous attendent, j'ai envie de leur dire que la concurrence arrive. Il y a plein de messages à faire passer. Il y en a des à l'infini. » Et je leur dis, mais non, il va falloir en choisir un. Parce que pour marquer les esprits, aussi simple que cela paraît, un message, c'est plus facile à retenir que 10. Enfin, c'est bête, mais on a tendance à l'oublier. On nous abreuve d'informations, on nous abreuve de choses, mais le cerveau est fait qu'à un moment donné, il doit y avoir un message fort qu'on doit retenir. Et tous les grands discours, il y a un seul message. I have a dream, c'est un seul message. Le général de Gaulle, la libération, etc., c'est un seul message, etc., etc. Et encore aujourd'hui. Et encore une fois, c'est très difficile, parce qu'il faut faire des choix. Ça va vous obliger à laisser de côté certaines choses, ça va vous obliger à hiérarchiser vos différentes idées, et ça, c'est pas évident. Et c'est le plus dur, le message. Et si vous avez une prise de parole en public qui compte pour vous, et par exemple, vous êtes à un mariage, vous devez prendre la parole, vous devez féliciter votre cousin qui a obtenu son bac, ou que sais-je, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer à ce moment-là, de très important, et qu'il doit retenir? C'est ça qui doit guider, finalement, tout votre discours, vos exemples, les détails que vous allez utiliser, la longueur, le ton, tout est orienté vers cet unique message. Et donc, moi, le message qui me semble important aujourd'hui, et qu'on dit peu finalement, et qui paraît assez fou, c'est qu'on a appris à nos enfants, moi j'ai 27 ans, je suis encore assez jeune, mais on m'a appris à lire, on m'a appris à écrire, avec un stylo ou aujourd'hui plutôt sur un ordinateur, on m'a appris à compter, mais j'ai appris tout seul à parler. Et c'est dans le système éducatif français quelque chose qui reste encore très peu enseigné, en tout cas pas dans une discipline en tant que telle. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas, on n'a pas de cours d'art oratoire, on n'a pas de cours d'éloquence, de rhétorique. On prend la parole, certes. On lève la main, on récite un poème, on joue une pièce de théâtre, ça, il n'y a pas de problème, il y a des moments d'échange, mais on n'apprend pas quelles sont les règles, quelles sont les méthodes. Et par exemple, si vous comparez le système éducatif français au système éducatif anglo-saxon, souvent les gens disent, mais les anglo-saxons, ils savent parler, c'est incroyable, ils sont ultra inspirants, ils savent aller à l'essentiel, ils savent nous embarquer, ils utilisent des exemples complètement fous, etc. Mais c'est qu'en fait, une grosse partie de leur système éducatif et de la transmission est basée sur la parole. Et pour avoir étudié aux États-Unis, par exemple, le système est organisé de manière à ce que vous préparez les cours en amont, et une fois que vous arrivez en classe, avec le professeur, vous menez une discussion, vous menez un échange, vous menez un dialogue. Et donc forcément, la parole devient centrale. Et si vous commencez ça, en fait, dès le primaire, forcément, vous apprenez un certain nombre de règles, un certain nombre de choses où vous pouvez voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ils ont également, au primaire, vous connaissez peut-être cet exercice qui s'appelle « show and tell », donc les enfants, dès le plus jeune âge, doivent raconter, en montrant quelque chose, ou une expérience qu'ils ont vécue le week-end, doivent raconter une histoire autour de cette expérience. Et c'est pour ça que ce sont des conteurs d'histoires, fondamentalement. C'est que dès le plus jeune âge, la barrière du stress, le regard des autres, tout ça tombe, en fait. Et ils partagent directement avec les personnes. Le système éducatif français change un peu, vous le savez, puisque un grand oral va être introduit au bac en 2021. Néanmoins, aujourd'hui, on ne sait pas encore dans quelle mesure sera enseignée la prise de parole en public dans les collèges et les lycées, puisqu'il faudra former les profs également à cette discipline, puisqu'ils ne pourront pas sinon l'enseigner. Et donc mon livre, il a vocation à... Il y a 60 thèmes, et sur ces 60 thèmes, il a vocation à donner des clés de compréhension, à la fois sur le fond, sur la forme, sur l'incarnation de son message, sur comment on utilise un argument, quel type d'argument, pourquoi faire. Donc il donne des clés pour tout ça. Et de la même manière qu'il donne des clés pour lire, pour écrire ou pour compter. Et demain, parce qu'aujourd'hui les gens disent, bah oui, mais les ordinateurs, les téléphones mobiles, l'intelligence artificielle, etc. Mais, bien sûr, mais pour l'instant, en vrai, on va continuer d'écrire, on va continuer de compter, on va continuer de lire et on va continuer de parler. Et ça pour quand même un bon nombre d'années. Donc ça me semble important, notamment dans une société où les idées deviennent une denrée rare et le besoin de débat, de dialogue est encore plus pour qu'on, tous ensemble, on construise un monde meilleur. C'est peut-être bateau de le dire, mais aujourd'hui, la pauvreté parfois des débats qu'on a en France sur différents sujets tient peut-être en partie parce qu'on ne sait pas ce qu'est un débat, on ne sait pas ce qu'est un dialogue, on ne sait pas comment confronter ses idées sans se frustrer, sans prendre mal l'opinion de l'autre. Et ils sont rares, ces échanges, en fait, finalement, en termes de prise de parole. Vous pouvez avoir des livres magnifiquement écrits, mais vous avez peu de grands débats qui s'organisent. Et peut-être que c'est dû aussi à ce manque d'éducation à la prise de parole en public. Et la prise de parole en public, elle est partout. Et elle est dans vos dîners, en famille, avec des amis, avec vos proches. Elle est au travail, en réunion, tous les jours. Il y a des gens qui ne font que des réunions au travail. Enfin, c'est une grosse partie de leur travail, qui sont tout le temps en réunion avec leurs supérieurs, avec leurs collègues. Et ils font que ça. Et la plupart du temps, ils s'ennuient. La plupart du temps, la réunion, c'est plutôt une difficulté, plutôt qu'un moment de plaisir, de partage, une expérience intellectuelle incroyable, etc. Des conférences, quand vous êtes l'orateur principal, comme je le suis ici, donc mener une discussion, mener un échange, prendre la charge de cet échange, en interaction, négocier, faire des entretiens. C'est pareil, pensez à nos jeunes qui sortent du bac, ils doivent se défendre, convaincre l'employeur de leur faire confiance, etc. Mais si vous n'avez pas appris à vous mettre en valeur, si vous n'avez pas appris à raconter vos expériences, c'est difficile, c'est forcément difficile. Et donc, pareil, cet ouvrage, il a vocation à donner quelques clés très simples pour essayer de soi-même progresser, s'entraîner et aller en ce sens pour tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai commencé par des grands orateurs, mais en fait, ça s'applique, les mêmes méthodes s'appliquent dans la vie de tous les jours. Et donc, moi, je tiens à quelque chose qui est le plaire et instruire. Vous savez, le plaire et instruire, c'est la devise du XVIIe siècle des classiques, Molière, Racine et consorts, qui, à un moment donné, ont su, et ils ont eu le génie, et en fait, ils ont tout simplement réinventé ce qui existait déjà à l'Antiquité, mais c'est qu'il y a, dans une bonne histoire, une partie qui nous captive, et ça, c'est le plaire. Il faut qu'on soit ému, il faut qu'on prenne du plaisir, il faut que ça nous transporte, qu'on découvre un nouveau monde, qu'on rencontre de nouveaux personnages. C'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on lit des romans policiers, c'est pour ça qu'on va au cinéma, c'est pour ça qu'on écoute les histoires de nos proches. Mais c'est pas en vain, c'est-à-dire que ça nous apprend quelque chose sur nous, sur le monde, sur les autres. Pensez à la mythologie gréco-romaine, tous les mythes qui ont structuré nos sociétés. Le mythe d'Icare sur la vanité, sur la confiance en soi, tous ces mythes-là qui continuent de régir notre société, c'est du plaire et c'est de l'instruire. C'est une histoire, l'Odyssée, l'Iliade, d'Homère, ce n'est que ça. La Bible et ses paraboles, pourquoi utiliser des paraboles ? Tout simplement pour diffuser au plus grand nombre, qu'importe les cultures, les frontières, les langues, cette connaissance que Jésus voulait transmettre. Et pour ça, même si c'est apocryphe, pour ça, c'était justement d'utiliser des belles histoires pour pouvoir le partager au plus grand nombre. Les contes de Charles Perrault, les fables de La Fontaine, aujourd'hui ce qu'on appelle le storytelling, cette capacité à transmettre des messages à travers une histoire où on se met en scène. Pensez par exemple à l'American Dream, vous savez, Barack Obama par exemple, lorsqu'il est inconnu en 2004, où il commence sa carrière politique, il va très vite mettre en récit son histoire et dire que c'était un homme politique inconnu de Chicago, noir américain, et qui peu à peu va gravir les échelons de cette société, et puis va réaliser son rêve, ou l'un de ses rêves, devenir président des États-Unis, et il va embarquer tout ce pays avec son slogan « Yes, we can ». C'est une mise en récit. Il devient le héros de son histoire, et avec lui, l'ensemble des Américains ou ceux qui le suivent. Et donc ces deux mouvements-là, moi j'y tiens beaucoup, parce que parfois, et j'ai le sentiment que dans nos écoles, on oublie un peu ça, c'est qu'il faut s'amuser pour apprendre. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez savoir bien lire, écrire, compter et parler, il faut que vous preniez du plaisir à ça. Et dans mon livre, il y a énormément d'exemples. C'est un ton qui est léger, c'est un ton qui est direct. C'est un ton où il y a du deuxième degré, du troisième degré, on se moque de soi parce qu'on est en train d'apprendre. Donc c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si... moi je cite des grands orateurs qui se sont trompés, ils n'en sont pas morts, ils ont eu une carrière extraordinaire, etc., etc. Donc on prend du plaisir et on apprend quelque chose. Et ça pour moi c'est très très important. Donc je vais vous donner quelques clés qui se trouvent dans mon livre. En fait il y a 60 thèmes, donc je ne vais pas vous les faire les 60. Mais quelques éléments pour donc marquer les esprits et prendre du plaisir. Donc en fait, il y a 5 grands thèmes qui régissent ce livre, dont vous les voyez affichés à l'écran. Donc ils vont, ce que j'appelle en fait la justesse, c'est savoir s'adapter à son audience, à son environnement. Et ça, c'est quelque chose que souvent les orateurs oublient, c'est à qui je m'adresse. Donc quels exemples je mobilise, quel ton j'adopte, quelle durée de l'échange, etc. Donc ça, c'est vraiment prendre en compte, se poser toutes les bonnes questions pour être juste le jour J. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que si Il n'y a aucun grand orateur qui a un discours figé et qui le ressort à chaque fois de la même manière. Ça n'existe pas. C'est impossible parce que bah, vos audiences sont différentes. Si je vous parle à 8h du matin ou à 22h le soir, bah, vous n'allez pas avoir la même attention, le même degré de fatigue, etc., etc., etc. Et ça, il faut en tenir compte pour marquer les esprits et être sur ce ton juste. Le deuxième thème, c'est la conviction. Donc là, on est plutôt sur le fond. Donc, qu'est-ce qu'un argument? Comment utiliser des arguments? Comment utiliser les raisonnements? Quel type de raisonnement? Quels sont leurs effets? Quels sont leurs avantages, leurs désavantages? Comment on entre dans un débat? Comment on sort gagnant d'un débat, etc. Donc là, on est vraiment sur le fond, sur la structuration. Je vais vous en donner un exemple par la suite, mais c'est évidemment un élément crucial et central. Même dans la mise en récit, vous avez un certain nombre d'étapes qui se succèdent, qui sont extrêmement importantes à respecter. L'assurance, donc ça c'est la confiance en soi, on en parlait tout à l'heure. Je n'ai pas fait du stress, je n'ai pas fait de la peur le point de départ de mon livre. En fait, c'est un thème sur les 60. Et vous avez des livres de prise de parole en public dans les librairies qui font du stress 90% du livre et à la fin qui vous donnent quelques clés pour vous tenir droit et projeter votre voix. Mais ça ne marche pas. Et en fait... Il y a 6 interviews dans mon livre et il y a notamment l'interview de Maître V. Donc Maître V, c'est l'associé d'Éric Dupond-Moretti, que vous connaissez certainement mieux, donc grand avocat pénaliste. Et Maître V me dit toujours, en fait, la peur, le stress, tout ça, c'est rien. Moi, je stresse tous les jours quand je suis devant un jury, quand je défends mes clients. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que vous croyez au message que vous transmettez? Est-ce que vous avez envie de le transmettre? 2 questions. Est-ce que vous croyez au message que vous voulez transmettre? Et est-ce que vous avez envie de le transmettre? Qui sont 2 choses différentes. Il m'a dit, si vous avez ces 2 choses-là, mais je me fous de savoir si vous tremblez, si vous n'êtes pas droit, si vous hésitez, si vous butez sur des mots. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la capacité que vous avez à transmettre un message fort. Et je trouve que c'est assez puissant, parce que, comme vous le savez, maintenant c'est bien connu, mais Éric Dupond-Moretti a longtemps... eu énormément de stress avant de prendre la parole dans les tribunaux, il vomissait, il y a certains reportages où on le voit, il a besoin de s'isoler, etc. Maître V, vous verrez dans l'interview, dit qu'il est pris de problèmes gastriques, de tensions, le thorax est contracté. Enfin, ce sont des gens qui ont des troubles physiologiques avant de prendre la parole parce qu'ils ont peur, parce qu'ils portent pour certains la vie de certains de leurs clients entre leurs mains. Mais il me dit à chaque fois, voilà, ce qui transcende, c'est que nous, on est sûr de ce qu'on va dire. Et parce qu'on est sûr, bah c'est pas grave, ma voix sera peut-être tremblotante, peut-être que j'aurai un chat dans la gorge, peut-être que je ne me tiendrai pas parfaitement droit, mais qu'importe, j'aurai au moins transmis mon message et c'est le principal. Donc voilà, comment on fait pour être assuré, avoir de la crédibilité, de la légitimité? Donc c'est traité également dans le livre. Le style, donc le style c'est plutôt aussi sur la forme, parce qu'il y a plein de procédés évidemment pour mettre en valeur son propos. Donc là, on est vraiment sur des techniques qui sont des figures de style, qui sont également sur des choses comme l'anaphore, comme les comparaisons. Donc on est vraiment là dans comment je fais pour mettre en avant mes différents propos et le mieux possible. Et pour ça, il y a un certain nombre de techniques qu'on peut mobiliser et qui sont extrêmement intéressantes à connaître pour peu à peu essayer d'acquérir, je dirais, ce style supplémentaire, ce supplément d'âme qui va emporter un peu... votre audience. Et puis, évidemment, parler avec son corps, évidemment, parler, c'est éminemment mobiliser l'ensemble de son corps, et donc comment on utilise ses mains, comment on utilise sa voix, comment on utilise tous ces choses-là pour aller également dans le sens de la conviction et dans le sens de marquer les esprits. Donc, ces 5 grands thèmes, ça représente, donc ces 5 grands chapitres, en fait, représentent une 60aine de thèmes à travers le livre, et je vous l'ai déjà dit, en fait, il y a 200 exemples, plus de 200 exemples qui sont pris dans tous les domaines à travers l'histoire. Il y a des grands orateurs, bien sûr, mais il y a également des vidéos ou des jeunes personnes qui font des vidéos sur YouTube. Vous avez quelques exemples dans le domaine des jeux vidéo. Vous avez des choses qui sont de l'ordre de la conférence où la personne arrive seule sur scène et parle 8 minutes, comme je vous l'ai dit. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses. L'idée, en fait, que moi je voulais montrer, c'est que, en fait, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau sur la prise de parole en public depuis Cicéron et l'Antiquité gréco-romaine, finalement, où ils ont tout théorisé de manière absolument incroyable. Vous pouvez relire Cicéron, hein, relisez De Oratore ou Brutus, enfin, c'est absolument incroyable. Moi, je n'ai rien réinventé. La seule chose que j'ai réinventée, c'est la manière de présenter les choses. Et donc, du coup, des exemples plus contemporains, avec un ton plus léger et direct, des interviews, et puis des illustrations, donc qui font également appel à ce que je disais tout à l'heure, plaire et instruire, donc pas mal d'illustrations qui permettent de cheminer, parce que, vous le verrez, le livre est assez conséquent, puisqu'il y a quand même 60 thèmes, et donc ça aide à cheminer. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur, donc quelque chose d'assez dynamique, d'assez visuel, où en fait ça se lit assez facilement, et vous avez évidemment des clins d'œil avec les différentes illustrations qui viennent ponctuer le livre. Et puis ce que j'ai souhaité faire pour chacun des thèmes, c'est avoir trois points à retenir à la fin de chaque thème. Donc ça c'est hyper important en fait pour mémoriser et comprendre. Donc à chaque fois, je viens remettre les trois points que vous devez garder en mémoire sur ce thème-là. Et ça me semblait important parce qu'il y a tellement de choses que finalement garder à chaque fois trois choses importantes, ça me semble hyper pertinent pour finalement y revenir et sans avoir à relire tout le thème. Chaque thème fait 3-4 pages, hein, ne vous inquiétez pas. Ça me semble hyper important quand même de pouvoir se référer à ça. Et puis donc, 6 interviews. Donc Maître Antoine V, je l'ai mentionné. Adèle Vendrette, que vous connaissez peut-être, qui est présentatrice radio, donc qui présente Les Chemins de la philosophie sur France Culture. Donc là, on est plutôt dans le domaine du débat, du dialogue, comment on fait pour échanger de manière bienveillante des idées complexes, puisqu'elle s'adresse à un public très large, qu'elle considère en tout cas comme n'ayant aucune notion philosophique, et pourtant elle aborde des choses extrêmement complexes, la philosophie nietzschéenne, etc. Comment fait-on pour simplifier, pour faire du concret ? Il y a également Caroline Vigneault, qui est une humoriste qui parle plutôt là du style, de la tenue du corps, etc. Vous avez Clara Guémard, qui est chef d'entreprise. Et donc voilà, vous avez également Carole Beffa, qui est musicien, Victoire de la musique 2014, et qui a beaucoup écrit sur les ponts entre la voix et la musique. Donc on parle voilà, de plein de choses sur la rythmicité, sur ces choses-là. Et donc ils apportent un éclairage qui est le leur à travers quelques questions. Et ça me semblait aussi important de le relier à des métiers qui utilisent en fait la parole de manière quotidienne. Et donc, vous voyez des illustrations qui sont parfois assez marrantes, comme le discours de Tarzan, où il faut s'accrocher, évidemment. Donc, ce livre-là, il a voilà, vraiment vocation à plaire, et j'espère qu'on aura réussi cette mission. Et donc, avant de passer aux quelques techniques que je voudrais vous donner, donc il y en a 3-4 sur les centaines de techniques, certainement. Peut-être, si vous avez des questions ou si vous avez déjà des réactions ou si vous voulez partager quelque chose avec moi et avec l'ensemble, je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup pour cette réflexion passionnante. La réponse est oui. Et je vais essayer de répondre brièvement à ce sujet qui me passionne également. C'est vrai que la manipulation de tout temps, elle a été liée à la parole. Vous le savez peut-être, mais en fait, toute la philosophie occidentale, depuis Platon, s'est en fait construite en regard des sophistes. Et les sophistes, c'était les premiers à vendre leurs paroles, littéralement. C'était des professeurs qui vendaient leurs paroles. Et les sophistes disaient, en parcourant la Grèce, qu'on pouvait soutenir sur n'importe quel sujet tout et son contraire, ou l'affirmative et la négative. Et donc, Platon, horrifié par cette vision, va construire la philosophie. Et donc la philosophie et la rhétorique, depuis, vont entretenir en fait finalement une relation extrêmement difficile. Et donc ça, c'est quand même le point de départ. C'est-à-dire qu'initialement et historiquement, il y a ce point véritablement de dissension entre les deux, et la rhétorique va avoir énormément de mal, après Cicéron et la grande époque romaine, à trouver une place de choix parmi les grands penseurs, sans effectivement avoir cette crainte de la manipulation qui est encore extrêmement présente et qui est totalement valable, parce que parfois elle est évidemment ultra prégnante. Et par exemple, tout à l'heure je mentionnais la mise en récit et le storytelling. En fait, l'ouvrage majeur en France qui existe sur le sujet, c'est un ouvrage de Christian Salmon qui s'appelle Storytelling, tout simplement. Et sur des dizaines et des dizaines de pages, en fait, il dit que le storytelling n'est que manipulation. Le storytelling n'est que un artifice du grand capital, du marketing, qui ne vise qu'à manipuler les foules pour faire acheter un produit, pour faire croire à une idée. Et évidemment que ça existe et que ça peut être le cas. Moi, j'offre dans mon livre, effectivement, un certain nombre de clés pour essayer de déceler ça. Je fais appel à différents auteurs. Schopenhauer a écrit un peu sur le sujet, Montaigne a écrit un peu sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Montaigne qui dit « La parole appartient autant à celui qui l'a qu'à celui qui l'écoute ». Et en fait, finalement, je crois beaucoup à éduquer un peu aussi, à travers ce livre, tout le monde à justement ce qu'est la parole et ce qu'elle permet de faire. Et en montrant ce qu'elle permet de faire, c'est déjà d'une certaine manière parvenir à détecter ce qu'il se passe quand j'entends un homme politique me dire quelque chose. Et j'explique par exemple ce qu'est un argument, en quoi un argument peut être fallacieux et en quoi un raisonnement peut être fallacieux. Notamment, il y a des exemples très concrets sur des syllogismes ou des relations de cause à effet entre deux arguments qui sont constamment réalisés par des hommes politiques, mais qui sont des raccourcis logiques et qui finalement, une fois que vous arrivez à détecter ça, bah vous êtes capable de casser, comme vous le mentionnez, la manipulation, la tromperie. Et j'espère pouvoir apporter un éclairage là-dessus. Donc il y a un certain nombre de thèmes, effectivement, qui font directement référence à ça. Mais je crois que sur ce sujet de la manipulation, ça revient à ce que je disais au départ. C'est-à-dire qu'il va falloir enseigner ce qu'est la parole, comment elle se construit, et le pouvoir qu'elle peut avoir. Et vous mentionnez le pouvoir. Bourdieu a fait du langage et de la parole un objet de pouvoir. Dans Ce que parler veut dire, de Bourdieu, et dans toute la mythologie qu'il a construite autour de la parole, il dit que la parole est pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a un marché linguistique, ce qu'il appelle un marché linguistique, où on se rencontre, et moi, par mon expérience, mon langage, mon vocabulaire, j'ai un certain pouvoir sur certains, et puis d'autres ont un certain pouvoir sur moi, et ceux qui maîtrisent le langage, Jacques Séguéla, peut-être mieux que d'autres, peuvent avoir un pouvoir accru sur eux et les manipuler, les guider là où il veut, etc. Et on pourrait très bien soutenir que Barack Obama, par exemple, lorsqu'il dit « Yes, we can » pendant 8 ans, qu'il ne délivre pas l'ensemble de cette promesse au peuple américain derrière, amenant peut-être à Donald Trump, on pourrait très bien soutenir qu'il y a une certaine forme de tromperie et qu'à travers un discours, qu'il a fédéré des gens et il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc évidemment, il y a toujours ce double versant. Moi, j'espère que tout le monde pourra apprendre ces techniques pour justement pouvoir un peu ensemble échanger avec de véritables arguments ou, si on n'utilise pas de véritables arguments, pouvoir les repérer et les démonter. Quelques techniques, donc, comme Indiana Jones qui découvre des trésors. Donc la première, justement, ça fait référence à quelque chose qui peut être utilisé dans le cadre de la manipulation, qui est le raisonnement binaire. Là, on est vraiment dans qu'est-ce qu'un raisonnement logique et rationnel. C'est-à-dire, quand vous construisez quelque chose, qu'est-ce qui fait que vous cheminez de manière rationnelle et que vous tendez vers une vérité ? Pas forcément la vérité, mais vers une vérité qui se tient, qui a des piliers et qui est recevable. Le raisonnement binaire, c'est quoi ? Vous le connaissez tous, en fait, c'est le good cop, bad cop. C'est utilisé dans plein de films, dans plein de récits. C'est noir ou c'est blanc ? C'est A ou c'est B ? Il y a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. On raisonne tous de cette manière. On aime à raisonner comme ça parce que c'est extrêmement simple. En revanche, vous le savez, la réalité, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à embrasser. Et évidemment que c'est jamais tout noir et c'est jamais tout blanc. Pourtant, on ne cesse de réfléchir comme ça. Et l'un des exemples fondamentaux, c'est George Bush qui, après les attentats du 11 septembre, fait un discours et dit... Soit vous êtes avec moi, avec les États-Unis, soit vous êtes contre nous. Donc tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre nous. Et en fait, cette vision, elle va perdurer pendant une décennie. C'est-à-dire qu'on va croire que ceux qui font le bien et la paix dans le monde, ce sont les États-Unis, comme la France, alors qu'on est engagé sur des terrains de guerre et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc l'idée, c'est pas tant de juger, si vous voulez, la politique ou la géopolitique française ou américaine, mais c'est de dire qu'il y a ici une simplification du réel qui est binaire et qui est peut-être dangereuse parce que vous pouvez avoir des dérives, parce que vous pouvez avoir un certain nombre de manipulations. Et ce qui est inquiétant, c'est peut-être pas tant qu'ils l'utilisent, mais c'est que personne à ce moment-là dise cette vision simplificatrice, elle est quand même à combattre. Et à un moment donné, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que votre responsabilité est peut-être autre, etc. Donc il y a un certain nombre de raisonnements comme ça que je mets en valeur dans mon ouvrage avec plein d'exemples différents et comment justement, c'est à ce moment-là notamment dans cette partie-là, que je donne des clés pour essayer de déceler ça. Et face à tout raisonnement binaire, c'est extrêmement facile de mettre en difficulté la personne en face. À un moment donné, si vous avez un raisonnement où c'est noir ou c'est blanc, vous pouvez mobiliser beaucoup d'éléments pour lui faire comprendre que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a d'autres aspects, que vous pouvez voir le problème sous un autre angle, et donc que cet autre angle va mettre en danger en fait, son argument. Autre exemple, j'utilise un certain nombre de structures pour présenter un discours, une idée, qui sont des structures qui sont très souvent utilisées et qui sont assez simples à mobiliser. Ici, c'est une structure en trois actes qui fonctionne particulièrement bien si vous voulez fédérer, inspirer, présenter une idée un peu forte et vous voulez que les gens, par exemple, vous suivent. Ce sont des techniques qui sont notamment utilisées par des startups pour, vous savez, pitcher leurs idées, c'est-à-dire qu'ils présentent leurs idées. Mais comment font-ils pour embarquer les investisseurs, encourager les gens à acheter leurs produits ? En fait, c'est que, comme dans tout récit, hein, encore une fois, un roman, un film, une série, il y a une structure narrative qui sous-tend leurs propos. Celle en trois étapes, c'est la suivante, c'est que ça part d'un besoin. Tout simplement, quel est le besoin ? C'est-à-dire que moi, je suis par exemple une start-up, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. C'est-à-dire que dans la situation actuelle dans laquelle on vit, toute start-up répond à un besoin fondamental. Par exemple, moi, je ne sais pas, le besoin de mobilité. Donc, Blablacar, vous connaissez peut-être cette entreprise de covoiturage, il répond à un besoin de mobilité. Donc, on a tous envie de bouger, d'aller en vacances pour moins cher, etc. On a un véritable besoin de découvrir, etc. Ça, c'est le besoin auquel ils répondent, qui est sous-jacent. Mais pour répondre à ce besoin, il y a plein d'obstacles. Là, c'est la deuxième partie. Dans toute histoire fascinante, il y a plein d'obstacles qui se dressent devant la personne. Roman policier, vous avez un meurtre au début, y a un besoin qui est très simple, c'est de découvrir qui est le meurtrier. Et sauf que si c'était très simple, l'ouvrage ferait une page. Mais en fait, ça peut vous tenir 200, 300, 1000 pages, parce qu'il y a plein d'obstacles qui se dressent devant la police, la personne qui cherche. Des obstacles internes, sa psychologie, son état, l'expérience qu'il a, des obstacles externes, c'est dans un autre pays, il doit constituer une équipe. Bref, il y a plein d'obstacles qu'il doit... Et on adore en fait les obstacles, parce que plus il y a d'obstacles, plus on a envie qu'il les franchisse. C'est aussi simple que ça. Plus c'est difficile à battre comme record, plus on est devant notre télé, parce qu'on a envie de savoir s'il va le battre. C'est aussi simple que ça, ça nous tient en haleine en fait. Et puis, à la fin, des résultats. Et donc, dans un happy end, c'est-à-dire quand ça se termine bien, eh bien évidemment, on a un dénouement, donc on trouve le meurtrier. Et puis, vous avez des histoires qui se terminent mal. Ça peut être libre choix à vous de terminer votre histoire plus mal. Pour les startups, souvent, ça se termine bien également. Et donc, cette structure, elle est extrêmement simple. Mais le simple fait de se poser et de commencer à écrire, OK, à quel besoin je réponds ? Quels sont les obstacles qui se dressent devant moi ? Et quel résultat je veux obtenir ? Déjà, vous avez une trame qui est efficace et qui est utilisée aujourd'hui par les réalisateurs. Pensez à n'importe quel film de super-héros, encore une fois, n'importe quel policier, n'importe quel conte que vous avez entendu ou lu quand vous étiez petit. C'est tout simplement cette même trame qui est utilisée. Et par exemple, je prends l'exemple dans mon livre d'Elon Musk. Vous connaissez peut-être Elon Musk, immense entrepreneur actuel qui a monté plusieurs entreprises comme Tesla, comme PayPal, et qui n'est pas un grand orateur. Vous l'écoutez, et je pense que selon les critères que vous avez, vous n'allez pas me dire que c'est un grand orateur. Mais en revanche, il structure tous ses discours, ses interventions, même ses réponses, toujours en partant d'un besoin, d'obstacles à surmonter, et des résultats. Les résultats étant évidemment obtenus grâce à son entreprise, à son savoir, à son talent. Et grâce à cette structure-là, il parvient à être convaincant. Et les gens l'écoutent, et les gens tendent l'oreille, alors même que c'est quelqu'un qui est plutôt mal à l'aise sur scène, qui clairement a des difficultés à s'exprimer, il ne prend pas de plaisir à ça. Mais la structure est là. Et déjà, c'est un grand pas vers la conviction. Autre exemple, beaucoup plus pragmatique, entre guillemets, parce que je donne aussi des choses très pragmatiques, c'est comment on fait pour... être concret. En fait, une histoire, et une histoire à laquelle on s'attache, c'est une histoire qui est concrète. Et donc, typiquement, vous avez des gens que vous n'écoutez pas, et en fait, la plupart du temps, c'est que ça, c'est assez vague, c'est assez abstrait. Vous savez, ils sont dans un monde où on parle de téléphone, de température, mais ça, c'est abstrait, ça ne nous parle pas du tout. En fait, il n'y a pas de sensation. En revanche, J'ai envie de savoir, moi, mais c'est quel téléphone ? Tu l'as acheté où ? Il pèse combien ? Il fait quoi ? Est-ce qu'il est vieux ? Est-ce qu'il est cassé ? Il n'est pas cassé ? Il est de quelle couleur ? Est-ce qu'il te plaît ? Il ne te plaît pas ? Tout ça, on a envie de le savoir. Et c'est ça qui se passe dans une histoire. On est vraiment, c'est les détails qui véritablement nous font adhérer à une histoire et à un propos. Et la plupart des grands orateurs qui sont convaincants, ils ont cette capacité toujours à aller vers le concret, à donner des détails. Et souvent, en fait, notamment dans la manipulation, c'est un des moyens de détecter la manipulation. C'est que si la personne vous lance une immense idée, mais n'est pas capable d'aller jusqu'au bout et de vous citer plusieurs exemples, donner des détails de cet exemple, c'est que probablement, il n'a pas creusé et il n'est pas allé au bout de la réflexion. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser de manière très basique et très simple. Et c'est ça qui nous met en haleine. Et pensez par exemple à la description d'un plat que vous adoriez manger. En fait, vous avez très vite l'eau à la bouche, mais tout simplement parce qu'il y a plein de détails, parce que vous le visualisez, parce que vous arrivez à vous imaginer ce que c'est. Si je vous parle d'un plat de manière extrêmement vague, comme étant une entrée magnifique au saumon, bon, ça ne va pas vous donner non plus l'eau à la bouche de manière extraordinaire. Donc le concret, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement simple que je mets en valeur dans mon ouvrage. Il y en a plein d'autres de techniques comme ça que vous pouvez, à mon sens, mobiliser quotidiennement. Des techniques comme l'anaphore. Donc l'anaphore, vous savez, c'est répéter quelque chose en début de phrase et qui va donner du rythme, qui va structurer votre propos. Le plus connu ces dernières années, c'est le fameux « moi, président de la République » de François Hollande, 18 fois répété face à Nicolas Sarkozy. On sait certainement que c'était préparé, c'est-à-dire qu'il a peut-être préparé cet anaphore-là. En tout cas, il a pu le faire 18 fois d'affilée, ce qui est énorme. L'anaphore, c'est un procédé rhétorique, encore une fois, vieux comme le monde, utilisé par tous les dramaturges, utilisé par des poètes, et qui permet de donner du rythme, qui permet de structurer un propos et de répéter quelque chose. Et quand vous répétez, vous mémorisez. C'est aussi simple que ça. Et vous avez notamment une tirade de Racine qui commence par Rome, 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 et qui donne un peu du poids véritablement à l'intrigue grâce à cette répétition. Et donc je mets en avant tout simplement ce type de technique, les comparaisons, les allitérations, les assonances. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire à un moment donné devant votre feuille, bon là je vais faire une anaphore. C'est difficile de se dire ça, mais en revanche, comme on le mentionnait tout à l'heure, avoir conscience qu'il y a des techniques qui permettent de structurer, de donner du rythme, d'être plus convaincant, c'est déjà avoir gagné quelque chose. Parce que c'est déjà se rendre compte que quelque chose se joue qui est de l'ordre de la technique, de la mise en forme, et ça apporte quand même une information importante pour l'audience. Autre technique, parce que je parle aussi de comment on fait pour incarner un propos, c'est par exemple l'utilisation d'objets. J'aurais pu très bien utiliser cet objet en vous disant que, en fait, dans cet iPhone-là, il y a la puissance de calcul qui a envoyé un homme sur la Lune en 1969. Puisqu'en fait, la mission Apollo qui a déposé Armstrong utilisait une puissance de calcul qui aujourd'hui est dans l'iPhone. Donc c'est la loi de Moore, c'est grâce au progrès technologique. Et en fait, chacun dans votre poche, vous avez la possibilité finalement d'envoyer un homme sur la Lune. Et grâce à l'utilisation de cet objet ou à la mention de cet objet, je marque les esprits plus fortement, en fait, parce que je mobilise quelque chose que vous allez retrouver dans votre poche en rentrant chez vous, etc. Et vous allez tout simplement raconter, mais tu sais qu'en fait, avec mon iPhone, j'aurais pu envoyer un homme sur la Lune en 69. C'est un peu plus puissant que si je n'avais pas utilisé cette image de l'iPhone. Et donc, par exemple, là, vous avez un réalisateur qui est J.J. Abrams, qui a fait des énormes succès, des séries télévisées également, et qui a réalisé une conférence où il utilise une boîte, donc c'est la boîte que vous voyez à l'écran avec un point d'interrogation. C'est une boîte que son grand-père lui a offert et qu'il n'a jamais ouverte. Donc c'est une boîte mystère que normalement vous ouvrez, vous savez, et puis vous avez plein de cadeaux différents dedans. Et il ne l'a jamais ouvert. Et il raconte que son désir d'être réalisateur, ou son désir de connaître le monde, de découvrir de nouvelles choses, est né de cette intrigue avec cette boîte. Il s'est dit, en fait, je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, mais j'ai envie de découvrir ce qu'il y a ailleurs, et je vais garder cette part de mystère dans cette boîte. Et il raconte cette histoire, et en fait, on se souvient de ça, parce qu'on se dit, mais il n'a jamais ouvert la boîte. C'est quand même dingue, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et ça marque les esprits, tout simplement, parce qu'il y a une image, il y a quelque chose auquel se raccrocher, qui nous parle plus que simplement la parole et les mots. Évidemment, je donne énormément de conseils très pratiques sur la manière de se tenir, le regard, la voix, le silence, le sourire. Donc on va parfois jusqu'aux exercices que vous pouvez retrouver dans le livre. Et tout ça est évidemment extrêmement important parce que les grands orateurs maîtrisent évidemment toutes ces techniques. Vous avez peut-être vu Le discours d'un roi comme film, où il y a un certain nombre de techniques qui sont mobilisées pour aider le roi d'Angleterre donc à mieux prendre la parole, à mieux projeter sa voix, à ne pas bégayer, à faire des silences. Et donc ça, c'est évidemment très important pour restituer un message, parce que, encore une fois, vous, avec votre voix, ses modulations, sa puissance, la manière dont vous tenez, l'énergie, tout ça participe à capter l'attention et à la garder. Donc voilà. Voilà ce qu'est prendre la parole pour marquer les esprits. Donc c'est un ouvrage qui mobilise plein de choses, qui permet de balayer, à mon sens, l'ensemble des thèmes avec de nombreux exemples, sur un ton, encore une fois, qui est très léger, qui est drôle, qui n'a pas vocation véritablement à voilà, se prendre la tête. On n'est pas dans le stress, on n'est pas dans la culpabilisation, on n'est pas dans le regard des autres. Et on essaye un peu de donner les clés pour à la fois décrypter et comprendre ce qu'il se passe, et puis faire le premier pas à son échelle. Et donc, cette échelle-là, c'est peut-être une salle de 2000 personnes, mais plus probablement être chez soi le dimanche, raconter une histoire captivante, essayer de convaincre ses enfants d'aller en vacances avec vous, enfin, qu'importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un ensemble de thèmes. Et en tout cas, j'espère que voilà, ça vous a donné envie de l'acheter. Et encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, des expériences à partager, je suis ravi. Merci beaucoup, en tout cas.